expliquer un peu la logique de la directive Bolkestein et en quoi elle parachève la construction de l'Union européenne d'un point de vue libéral, je voudrais insister en introduction sur l'importance de ce combat. Bon, il y a évidemment une importance qui renvoie au contenu de cette directive, qui, si elle était appliquée, aurait des conséquences relativement dramatiques pour l'ensemble des peuples européens, au sens où elle parachève, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, la construction libérale de l'Union européenne. Mais aussi, il y a une importance politique et symbolique du combat contre cette directive, parce que, comme vous le savez, le combat contre cette directive a commencé au moment de la campagne référendaire contre le traité constitutionnel européen. Et c'est la mise en avant du contenu de cette directive qui, d'un certain point de vue, a aidé, même si ça n'a pas été le seul élément, en tout cas, ça a été un des éléments qui a permis le basculement de l'opinion publique contre le traité constitutionnel européen. Donc, il y a une responsabilité pour nous qui avons appelé à voter non à cette constitution européenne de parachever ce combat, de le conclure en faisant retirer cette directive. Parce que, à l'époque, Chirac avait annoncé... Il y a un problème de...
C'est la mise en concurrence des micros.
C'est la mise en concurrence des micros.
Ah, bravo, bravo. Non, ça marche bien.
C'est bon. Donc, à l'époque, Chirac avait annoncé que cette directive était retirée, n'existait plus. On voit qu'une fois de plus, il a menti, que cette directive a continué son parcours parlementaire. Francis en parlera dans quelques minutes. Mais donc, si nous ne sommes pas capables, après la victoire sur le non, d'obtenir une victoire sur une question aussi symbolique que la question de la directive Bolkestein, il est clair que nous aurons un problème politique. Et donc le combat contre cette directive renvoie évidemment à son contenu, mais renvoie aussi en France à la place politique et symbolique qu'a pris cette directive dans le débat politique. Et là, nous avons, un devoir de succès dans la suite du combat que nous avons mené contre le projet de traité constitutionnel européen. Alors, venons-en maintenant à cette directive un peu sur le fond du sujet. Donc, c'est un projet, vous le savez, qui a été présenté en janvier 2004 par la Commission européenne. Toutes les directives sont présentées par la Commission européenne. C'est-à-dire que la Commission a, en fait, le monopole la présentation des lois européennes, qu'on appelle les directives. Bon, donc, toute directive est présentée par la Commission européenne. Et donc, la Commission a présenté cette directive en janvier 2004. C'est une directive qui vise à libéraliser les services. Et les services, c'est pas n'importe quoi dans l'économie européenne. Les services, c'est 70% du PIB, de la richesse produite dans l'Union européenne. Donc c'est considérable. Ça touche une multiplicité de secteurs. Et chacun d'entre nous, on utilise des services quasiment 24 heures sur 24. Donc c'est quelque chose qui... C'est une directive qui touche au cœur de l'activité économique de l'Union européenne. Non seulement ça représente 70% du PIB de l'Union, mais je veux dire, l'Union européenne est le premier exportateur de services dans le monde. Donc on voit que on n'est pas dans l'anecdotique, mais on est dans le fondamental du point de vue de la vie économique de l'Europe. L'acte unique de 86 avait instauré un marché intérieur qui visait à libéraliser, avec la libre circulation, instaurer la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services. Et la directive Bolkestein vise à appliquer théoriquement de pousser jusqu'au bout l'application de l'acte unique de 86, mais on va le voir, elle le fait d'une façon très particulière qui, d'un certain point de vue, va être en rupture avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, la directive, qu'est-ce qu'elle dit, quel est son objectif? C'est d'établir, un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre les États membres. Donc on a un objectif qui est une libéralisation totale hein, des services. C'est ça l'objectif fondamental. Bon. Son champ d'activité, c'est l'ensemble des services. Bon. Et la proposition, je lis là aussi, couvre tous les services qui représentent une activité économique au sens de la jurisprudence de la Cour. Bon, la jurisprudence de la Cour de justice, hein, c'est quoi ? C'est, elle indique, hein, que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné. Je relis cette phrase parce qu'elle est particulièrement importante. Une activité économique, pour la Cour de justice européenne, c'est une activité qui consiste à offrir des biens et des services sur un marché donné. Si vous regardez ce que ça signifie, ça veut dire que tout est une activité économique. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, l'éducation, ben, il y a un marché de l'éducation. Bon. Il y a des écoles privées, il y a des firmes privées qui offrent des services par Internet, etc. Bon. Donc, avec une définition aussi large de ce qu'est une activité économique, évidemment, je veux dire, la quasi-totalité des services, sauf les services régaliens de l'État, la justice, bon, par exemple, bon, mais même la sécurité, par exemple, pourrait être considérée comme une activité économique. Il y a un marché de la sécurité. Si on pousse cette définition jusqu'au bout, on voit qu'il reste quasiment rien comme service non économique. Donc, c'est une directive qui brasse extrêmement large. Extrêmement large. Le cœur de cette directive, vous le savez, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle le principe du pays d'origine. Le principe du pays d'origine, hein, c'est extrêmement simple, c'est un prestataire de service, en fait, serait soumis uniquement aux dispositions nationales de son état d'origine, dans lequel il est établi, ce qu'on appelle dans le langage de la directive l'état d'établissement, bon, et pas au droit, hein, dans lequel il fournit le service. Ce qui veut dire, par exemple, que, on va prendre Malte pour changer de la Pologne, hein, une entreprise maltaise, bon, eh bien, qui interviendrait en France, serait soumise, bon, au droit maltais. C'est ça la logique, hein, de la directive Bolkenstein. Alors, on me dit que c'est un paradis fiscal, ce qui est un peu vrai, mais la fiscalité est exclue, hein, de la directive. Bon, voilà. Bon, alors, il y a plein d'exclusions, je ne vais pas rentrer dans les détails à cette étape, surtout que ça risque de bouger, hein, Francis en parlera peut-être plus précisément avec les débats au Parlement européen, mais là, ce qui est important de comprendre, c'est quelle est la logique fondamentale de cette directive. Bon. Alors, ce que disent les libéraux, bon, et d'un certain point de vue, ils n'ont pas tort, bon, c'est qu'en fait, ce principe du pays d'origine, ce n'est pas nouveau dans la construction européenne. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt célèbre, bon, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, qui s'appelle l'arrêt Cassis de Dijon de 1979, et qui indiquait que si un produit pouvait être vendu dans un État de la communauté, parce qu'à l'époque c'était pas l'Union européenne, c'était la communauté, eh bien il pouvait être vendu dans tous les pays de la communauté. Bon, donc on a là appliqué aux marchandises, hein, aux biens industriels, bon, en fait, le principe du pays d'origine, c'est-à-dire un bien qui pouvait être vendu, en l'occurrence, c'était le cassis de Dijon, bon, qui avait été attaqué, enfin, c'était les producteurs de cassis de Dijon qui avaient porté plainte, hein, devant la Cour de justice, qui s'était fait battre, c'est pour ça qu'on appelle ça l'arrêt cassis de Dijon. Bien, donc, un producteur, bon, une entreprise qui peut vendre un produit dans un pays de l'Union européenne, le peut le vendre dans tous les pays de l'Union européenne. Bon. Donc c'est le principe du pays d'origine appliqué, hein, aux marchandises, aux biens industriels notamment. Bon. Mais ce que les libéraux oublient de dire, et c'est là, hein, ces deux choses qui sont deux choses tout à fait fondamentales, c'est d'abord que l'Union européenne à l'époque n'est plus la communauté européenne, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, c'est pas du tout la même chose que l'Union européenne aujourd'hui. Hein. La communauté européenne à l'époque, c'est en 78, c'est l'Europe des Neuf, hein, c'est les six d'origine, plus la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark. Et donc, on a un espace, à l'époque, qui est relativement homogène, relativement, même s'il y a évidemment des différences non négligeables, mais quand même relativement homogène, bon, socialement, fiscalement, bon, et en termes de tissu industriel. Et, de, bon. Et même en 81, bon, arrivent évidemment des pays qui, eux, bon, sont pas, en tout cas, beaucoup moins développés que les neufs, bon, même si l'Irlande était un peu à part, bon, qui sont, en 80, il y a la Grèce, en 86, l'Espagne et le Portugal qui rentrent. Et, bon, ce qui s'est passé à ce moment-là, hein, c'est que la Commission européenne de l'époque, qui est la Commission Delors, bon, a mené une politique qui était à la fois une politique de libéralisation à travers le marché unique, hein, c'est-à-dire c'est la grande époque, le début de la déréglementation, c'est-à-dire l'instauration du marché unique en 86 étant un véritable tournant dans l'Union européenne, mais dans le même temps, bon, ils ont mené une politique d'harmonisation, hein, de normes de production industrielle en Europe et de qualité des produits. Et il y a eu à l'époque des centaines de directives sur des sujets les plus divers qui ont permis que a été menée à la fois une politique de libéralisation à outrance, hein, notamment sur les services publics, mais aussi, hein, une politique d'harmonisation, bon, sur la qualité des produits et sur les conditions de production industrielle. Ça veut dire que le principe du pays d'origine, dans ce cadre-là, appliqué aux marchandises, hein, aux produits, n'a pas eu de conséquences dramatiques, tout simplement parce qu'il y a eu cette politique d'harmonisation qui a été menée. Bon. Et ce qui s'est passé dans le même temps, c'est qu'il y a, à travers ce qu'on appelle les fonds structuraux, les fonds structurels et les fonds de cohésion, il y a eu des sommes non négligeables, hein, qui ont été données aux nouveaux entrants qui étaient moins développés, la Grèce, l'Espagne, etc., pour leur permettre, bon, de rattraper leur retard. Et pour ceux qui vont en vacances en Grèce, vous pouvez voir que le réseau routier grec était dans un état lamentable, bon, dans les années 80. Il s'est beaucoup amélioré avec les fonds de la communauté. Et vous verrez qu'en Grèce, hein, il y a des panneaux avec marqué, je veux dire, cette route a été faite avec les fonds de la communauté européenne partout. Hein, bon. Et c'est l'Union européenne, bon, et les pays les plus riches de l'Union européenne, en l'occurrence, hein, qui ont payé, hein, pour pouvoir aider, hein, disons, à la remise à niveau de pays qui étaient des pays moins développés. Bon. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation radicalement différente. Et après l'acte unique qui avait instauré un marché intérieur, bon, des marchandises, des capitaux et des services, en 86, la deuxième grande rupture dans l'Union européenne, c'est la rupture de l'élargissement, bon, qui a fait passer, hein, l'Union européenne de 15 pays à 25. Et là, on est, d'un certain point de vue, bon, l'Union européenne, je ne dirais pas qu'elle a changé de nature, bon, mais en tout cas, elle s'est profondément transformée. Il y avait eu un débat, vous vous en souvenez peut-être, qui a avorté, qui était le débat élargissement ou approfondissement. Est-ce qu'on élargit l'Union européenne ou au contraire, avant d'élargir, est-ce qu'on essaye de construire une Europe politique, une Europe sociale, une Europe homogène, hein, socialement, fiscalement, etc. Bon. Et le choix qui a été fait au nom d'une mystique européenne, sans aucun débat réel, bon, et sans aucun, évidemment, même vote, hein, des peuples d'Europe, c'est-à-dire il n'y a eu aucun référendum sur l'élargissement, hein, ça a été le choix de l'élargissement. Et derrière le choix de l'élargissement, il y a un choix non dit qui est, en fait, de transformer l'Union européenne en simple zone de libre-échange. Pourquoi cela? C'est assez simple à comprendre. Parce que, à partir du moment où on a élargi à 25, on est rentré dans un espace profondément hétérogène. Je vais vous donner simplement un chiffre qui permet de comprendre, hein, les choses. Si on prend le coût de la main-d'œuvre, le coût horaire de la main-d'œuvre, en Lettonie, c'est 2,5 euros de l'heure, le coût moyen de la main-d'œuvre en Lettonie. Dans l'Europe des 15, la moyenne, c'est 23 euros. On voit la différence. Hein. Évidemment, quand on part de niveaux de développement si différents, il y a un problème, hein, pour ensuite pouvoir mener des politiques d'harmonisation et d'homogénéisation de l'espace social, fiscal et industriel, hein, de développement européen. Bon. Et donc, il y a d'autant plus de problèmes que la logique de la construction européenne, c'est pas aujourd'hui, il y a un refus, en fait, de politique d'harmonisation et de politique qui permettrait de mener à bien, hein, ces politiques d'homogénéisation de l'espace européen. Par exemple, vous avez tous suivi le débat, je veux dire, absolument hallucinant qui a eu lieu sur le budget européen, où les gouvernements ont discuté entre eux, savoir si le budget était de 1% de la richesse nationale, du PIB de l'Europe, ou 1,04 ou 1,06. Bon. Donc c'était et en bout de course, ils ont tranché pour une solution intermédiaire qui a d'ailleurs été refusée par le Parlement européen. Mais de toute façon, on a un budget européen qui est totalement dérisoire par rapport aux besoins qu'il faudrait avoir pour pouvoir mener des politiques d'aide aux nouveaux entrants qui leur permettraient de rattraper leur retard. Bon. Et évidemment, comme il y a un refus d'augmenter le budget européen, il y a un refus de mener des politiques fiscales à l'échelle européenne, par exemple d'avoir une taxation du capital et des profits à l'échelle européenne qui nourrirait ce budget européen. Bon. Donc il y a ce premier point qui est le refus de se doter que l'Union européenne se dote des instruments fiscaux et des instruments budgétaires pour permettre que les nouveaux entrants puissent se développer et rattraper petit à petit, je veux dire, le niveau des autres pays européens. Mais derrière ça, il y a aussi le refus de mener des politiques d'harmonisation. C'est-à-dire, évidemment, à partir du moment où on a une Europe si hétérogène, comme c'est difficile de mener des politiques d'harmonisation, qu'il n'y a pas les moyens budgétaires et fiscaux pour le faire, eh bien, qu'est-ce qui reste ? Quand on veut créer un grand marché, la seule chose qui reste, c'est la concurrence entre les États et les peuples. Est-ce que la logique de la directive Bolkestein, c'est elle prend acte, en fait, de l'état actuel de l'Union européenne, de son hétérogénéité, elle en tire les conséquences, je veux dire, logiques, de leur point de vue, du point de vue des libéraux, c'est-à-dire au lieu de mener, comme c'est difficile de mener des politiques d'harmonisation, que c'est impossible de point de vue budgétaire, puisqu'il n'y a pas la volonté politique des États d'augmenter le budget européen pour avoir des aides aux nouveaux entrants, eh bien la seule chose qui reste, c'est de mettre en concurrence, généraliser les États et les peuples. Et c'est ça la logique de la directive Bolkestein avec le principe du pays d'origine. Alors, dans le contenu de la directive, je ne vais pas rentrer dans les détails là, on pourra y revenir dans la discussion, évidemment, il y a des tas d'exceptions, d'exemptions, etc., etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec quel que soit le texte qui sera voté par le Parlement européen, on verra ensuite comment il va revenir au Conseil des ministres, etc., et quel que soit le texte final qui sera adopté, de toute façon, à partir du moment où est adopté le principe du pays d'origine, on change de logique dans la construction européenne. Auparavant, on pouvait penser que c'était une construction libérale, dans laquelle le droit de la concurrence, et c'est pour ça qu'on avait appelé à voter non au traité constitutionnel, parce qu'au cœur du traité constitutionnel européen, il y avait le droit de la concurrence qui surdéterminait la construction européenne. Mais on pouvait penser qu'un jour, peut-être, il y aurait des politiques d'harmonisation sociale, fiscale, qui permettraient qu'on arriverait à une Europe différente de l'Europe libérale actuelle. Avec la directive Bolkestein, de fait, cette perspective-là est renvoyée au calendrier grec, puisque la directive Bolkestein institutionnalise la concurrence entre les États et les peuples à travers le principe du pays d'origine. Dire que là, on n'a pas seulement une construction juridique avec le droit de la concurrence qui, en fait, surdétermine le fonctionnement de l'Union européenne tel que ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. On va encore plus loin et on parachève la construction européenne en mettant maintenant en son cœur, je veux dire, le fait que, eh bien, les États se font concurrence avec la généralisation du moins-disant qui soit social, fiscal, sur la protection des consommateurs, etc., etc. Bon. C'est ça la logique profonde qu'il y a au cœur de la directive Bolkestein. Alors, évidemment, ce que vont nous dire ces défenseurs, c'est que on exagère parce qu'il y a effectivement des tas d'exceptions qui sont marquées dans la directive, etc., etc., ce qui est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on franchirait avec cette directive, si elle était adoptée, un pas nouveau et qualitativement nouveau Bon, dans la construction d'une Europe libérale. C'est ça le danger profond de cette directive. Alors, où on en est aujourd'hui, ça sera ma conclusion. Bon, mais là, Francis développera ça après moi. Bon, ça va passer en première lecture au Parlement européen. Bon, on va voir ce qui ressortira du vote du Parlement européen. Ensuite, ça va aller au Conseil des ministres. Bon, on ne sait pas dans quel délai. Si c'est la présidence autrichienne va porter cette directive au Conseil des ministres ou pas. Bon, de toute façon, quel que soit le résultat, on est au début d'un processus de mobilisation. Le passage au Parlement européen, c'est le premier pas, la première lecture. Il y en aura probablement une seconde, peut-être une troisième. Bon, mais on est donc au début du processus. Quel que soit le résultat du vote au Parlement européen. De toute façon, les choses pourront changer par la suite. Ils pourront d'autant plus changer que on a obtenu une victoire avec le retrait de la directive portuaire, dont vous avez entendu parler, ce qui montre que c'est possible de le faire s'il y a des processus de mobilisation, que deuxièmement, les gouvernements sont eux-mêmes divisés sur le sujet. Il n'y a pas une adhésion enthousiaste à cette directive. Et donc, on peut jouer sur les contradictions à la fois des gouvernements en s'appuyant sur la mobilisation sociale. Et on sait que quand on gagne souvent parce qu'à la fois, nous-mêmes, nous sommes forts et nous sommes mobilisés, mais aussi parce que nous sommes capables de peser sur les contradictions de nos adversaires. Et nous sommes dans cette situation-là, dans le cas de la directive Bolkenstein, comme on l'a été dans le cas de la directive portuaire. Donc c'est possible de gagner. C'est possible de gagner, mais à une condition, c'est qu'évidemment, nous nous mobilisions. Nous nous mobilisions d'abord au niveau européen, d'où l'échéance très importante de ce qui va se passer autour du Parlement européen. Bon, il y a une manifestation de la CES le 14, mais il y a aussi on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la CES pour une manifestation unique. C'est tout à fait regrettable, mais bon, on se retrouve dans cette situation. Donc, il y a une manifestation de la CES le 14. Bon, et il y a une manifestation à Strasbourg aussi, le samedi 11. Bon, et il faut que ces deux manifestations soient réussies. Bon. Donc, il faut se mobiliser, autour du vote pour le Parlement européen. Il y a une journée d'action européenne, le 11 septembre, qui va toucher, beaucoup de... Le 11... Deuxième. Le 11, on est tous des traumatisés. Le 11 février, il y aura une mobilisation européenne. Il y a une journée d'action européenne le 11 février. Où il y aura beaucoup de choses qui vont être faites le 11 février. En France même, il y aura beaucoup de mobilisations et beaucoup d'initiatives dans plein d'endroits, en France. Mais il y a une manifestation européenne à Strasbourg. Une manifestation européenne qui sera d'ailleurs essentiellement franco-allemande et un peu belge. Mais il faut que cette manifestation soit réussie. C'est le début d'un processus, mais on n'a jamais intérêt à louper les débuts de processus, parce que ça handicape la suite. Donc voilà, il y a là des enjeux importants pour l'avenir. On est au début du processus de mobilisation. On peut gagner si nous nous imitons tous.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc, on m'a demandé d'intervenir ce soir sur les chantiers de l'Atlantique. Alors, on peut se demander qu'est-ce que vient faire un grand site industriel comme ça dans cette galère de Bolkestein qui concerne les services, comme l'a développé Pierre. La réponse est que dès 2002, la mise en concurrence des salariés par le non-respect du droit du travail français a été organisée par la direction de l'Alstom Atlantique, anticipant largement cette circulaire qu'on nous a dite retirer l'an dernier. On peut se rappeler qu'après 15 ans de basses eaux pour les chantiers, en 1999, il y a eu une reprise fantastique. Alors, je me limiterai à citer que les chantiers sont passés de 5000 salariés environ dans les années 96, dont 4000 CDI chantiers fixes, plus intérimaires et sous-traitants, un millier. À près de 15 000 sur le Queen Mary 2, ce qui fait quand même une multiplication par 3, si je compte bien. Et on a aussi l'explosion de la sous-traitance avec 6000 entreprises, donc on concernait 10000 salariés, puisqu'il n'y avait que 5000 salariés fixes au chantier. Donc spectaculaire aussi par la sous-traitance de main-d'œuvre étrangère. Et là, par cette main-d'œuvre étrangère, on revient à Böckelstein, si je ne me trompe. Alors, pour réfléchir là-dessus, je vais dire deux mots d'André Fada, avec qui on a réfléchi sur cette question, tant syndicalement qu'au niveau du collectif du 29 mai sur Saint-Nazaire. André Fada, je l'excuse ce soir, il est retenu par son congrès syndical, le congrès des intérimaires à Montreuil. Il a été créé, il a été chargé de créer par la CGT, d'animer l'Union syndicale multiprofessionnelle du site en 1999, pour répondre à la nouvelle situation des salariés. Il exprima très vite sa motivation et ses convictions en qualifiant les chantiers de laboratoire du MEDEF et de la mondialisation. Avec ses camarades sous-traitants, intérimaires et fixes des chantiers, il a fait de l'USM le laboratoire des luttes contre le laboratoire du MEDEF. Lutte rude et enthousiasmante auquel il nous fit participer, particulièrement en juillet et août 2005, autour des 13 Polonais, en grève de la faim. J'essaye d'aller vite parce que je suis limité à 5 minutes et puis il y a Philippe qui va me rappeler. Donc reprenons l'analyse de ces luttes. Dès le 1er mai 2002, les sans-papiers de Nantes sont venus manifester à Saint-Nazaire avec les syndicats. Nous avons distribué un tract des associations antiracistes nazériennes, LDH, MRAP, collectif de soutien aux sans-papiers, soutenu par la coordination Bretagne-Pays de Loire solidaire des personnes étrangères, j'espère que j'ai rien oublié, dont les militants et militantes étaient venus de plusieurs villes de l'Ouest. Le tract appelait à la vigilance contre les menaces de surexploitation de la main-d'œuvre étrangère et appelait à se mobiliser pour la libre circulation des hommes et des femmes et les mêmes droits pour tous et toutes. Initiative symbolique, certes, qui aurait certainement mérité d'être renouvelée. Mais revenons à la politique de la direction des chantiers inscrite dans le plan nommé Cap 21. Baisse des coûts de 30% et de mise en concurrence des salariés par le développement de la sous-traitance. Avec la circulaire patronale ultra-confidentielle intitulée cyniquement et magnifiquement « Montage exotique » qui incitait les entreprises sous-traitantes à aller chercher de la main-d'œuvre à faible coût dans d'autres pays, c'est un nouveau pas qui est franchi. On pourrait dire, c'est Böckelstein nommé directeur des ressources humaines des chantiers. Enfin, au fait, vous savez que Böckelstein, il est plus auteur de la circulaire. Enfin, il est toujours auteur de la circulaire, mais c'est plus la même. Et puis, il a trouvé une place PDG d'Air France. Enfin, PDG, quoi. Non, pas PDG. Non, bon, administrateur. D'accord. Ouais. Enfin, il touche à peu près quand même les émoluments, je pense. Je ne m'inquiète pas pour lui. En vrai aussi, cette inspiration Böckelstein a conduit plus de 2000 étrangers à participer à la construction du Queen Mary 2, entre autres paquebots, et a poussé la mise en concurrence des hommes à des situations dignes de l'esclavage. Vous avez tous en tête les luttes des Indiens, Grecs, Portugais, Roumains en 2003 pour le respect de leurs droits. Droits humains d'abord, récupération des passeports confisqués par les directions des entreprises, conditions de logement, conditions de vie, etc. Droits de salariés surtout, par le paiement des salaires dus et l'amélioration des contrats quand ils existent. Car ces travailleurs retrouvaient par la lutte leur dignité et les droits d'un pays où il existe encore un code du travail. Après ces luttes souvent gagnantes et toujours populaires, on pouvait espérer ne pas connaître à nouveau de telles situations d'esclavage moderne. Mais l'USM, l'Union syndicale multipro, maintenait la vigilance permanente et la riposte quotidienne dans les quelques 600 entreprises sous-traitantes. Car nous savions que les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'organisation du travail par la sous-traitance en cascade avec des patrons mafieux couverts par les donneurs d'ordre, les chantiers de l'Atlantique, produirait encore des situations intolérables et des résistances fortes. Aussi, en juillet 2005, quand 13 Polonais se sont enchaînés aux grilles des chantiers, nous fûmes à la fois surpris et prêts à organiser la lutte riche des expériences de 2003. En 15 jours de grève, dont une grève de la faim, preuve de la grande détermination des 13, avec la participation de la population nazérienne, interprofessionnelle CGT, association partie, de la confédération CGT avec l'intervention de Maryse Dumas, La victoire fut là et l'émotion énorme. D'autres groupes de Polonais y compris se mobilisèrent encore jusqu'au 23 décembre où l'union locale a dû se mobiliser pour que le car promis vienne chercher un groupe qui n'arriva que le jour de Noël chez lui en Pologne. La lutte a payé puisque pour la première fois des salariés étrangers dont l'employeur polonais a disparu entre-temps ont imposé aux donneurs d'ordre la prise en charge de la garantie de leurs droits sociaux. Un autre exemple, à la mi-septembre, 14 salariés polonais d'une autre entreprise obtenaient une nouvelle victoire, et cette fois à l'arraché, en 3 jours. Victoire fulgurante et surtout plus forte. Pour la première fois en France, on obtenait, en plus du paiement des sommes dues, salaire, heures sup, paiement des jours de grève, l'application, on obtenait donc l'application de tous les paramètres de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique pour des travailleurs étrangers et leur embauche en CDI. Pourtant, rien n'est réglé sur le fond. La CGT demande au gouvernement l'ouverture de discussions sur la responsabilité sociale du donneur d'ordre en cas de défaillance du sous-traitant, sur un droit de regard des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel sur le contenu social des contrats commerciaux, et sur un encadrement de la sous-traitance, en particulier l'interdiction de la sous-traitance en cascade. Seules des mesures de cette nature pourront empêcher que des situations de désespoir et d'esclavage comme celle de Saint-Nazaire se reproduisent à l'infini. Alors, l'adoption par le Parlement européen de la directive Bolkestein, relookée ou pas, bloquerait toute avancée dans ce sens et marquerait au contraire la généralisation de la concurrence entre les salariés à tous les secteurs de l'économie. D'ailleurs, la notion des services compris dans le TCE, mais ça, Pierre l'a déjà développé, qu'on a rejeté le 29 mai, s'étend aux entreprises de services de main-d'œuvre. Ce serait le retour des négriers. Si vous le permettez, un mot sur la vente des chantiers au trust à cœur. Les chantiers de l'Atlantique restent le dernier grand site de construction navale. Après la fermeture de Normed, du Bigeon, comme vous connaissez bien ici, et les achalages du Havre. Les opérations capitalistiques avec des trusts étrangers ne sont pas nouvelles. À Saint-Nazaire, on a connu la fusion de l'anglais GEC avec l'Alstom, qui a donné GEC Alstom, puis l'Alstom actuel, et puis après qu'ils se soient séparés, en 88, avec la bénédiction des gouvernements. À nouveau, c'est Sarkozy, en mai 2004, alors ministre de l'économie et des finances, qui obtenait de la Commission européenne la prise de participation de l'État de 21,36% du capital d'Alstom en pleine crise financière de ce trust, contre sa restructuration et des cessions ciblées. Les cessions ciblées, ça y est, elles sont arrivées. Ce sont Villepin et Breton qui se félicitent de la vente, sans état d'âme sur les chiffres. Alors là, je ne sais pas si vous allez suivre, si vous avez réussi à comprendre ça dans les journaux, mais Alstom cède 75% de ses parts pour 50 millions d'euros et recevra 125 millions d'euros en 2010 pour les 25% de parts restantes, mais doit injecter 350 millions d'euros de suite. 50 plus 125 moins 350, ma calculatrice qui perd ses chiffres romains, a trouvé 175 millions d'euros payés par le vendeur. J'ai cherché dans mon dictionnaire qui m'a dit que ça s'appelait une vente à perte. Payée par les subventions gouvernementales, mais, rassurons-nous, l'action Alstom a bondi de 8%. À ce jeu de monopolie capitaliste, il serait miraculeux que les travailleurs et les peuples soient gagnants, même en croyant au Père Noël norvégien. C'est encore au nom de la baisse des coûts que les restructurations vont menacer les bureaux d'études et les sous-traitants. La direction affiche déjà l'objectif de 2000 emplois fixes au CA pour 2010 à cause du non-renouvellement des départs en retraite et des pré-retraites amiantes. Encore avec plus de monoproduction de paquebots de croisière, tournant encore plus le dos à une autre politique industrielle de diversification des productions, telles les ferries, les méthaniers, les cargos porteurs et les pétroliers. Pourtant, après la catastrophe de l'Erika, on connaît le besoin de renouvellement de la flotte mondiale. Alors oui, il y en a assez de les entendre nous seriner, finances, bénéfices, actions, baisse des coûts, baisse des charges, de nous mettre en concurrence, de nous précariser, La solidarité et la coopération réalisées dans les luttes au chantier ces dernières années seront riches pour les luttes futures contre le nouveau trust hacker. Elles doivent alimenter la construction des projets de coopération et des projets et coopérations pour une autre construction navale, pour une autre Europe. Robert, un des 13 Polonais qui a fait grève de la faim, a dit après avoir gagné qu'il avait lutté contre la polonisation de l'Europe, qu'il fallait lutter pour les mêmes droits pour tous et toutes et pour garder les meilleurs, dans une autre Europe et dans un autre monde. Le Forum social mondial de Caracas et les alternatives naissantes au niveau des États de l'Amérique du Sud montrent que c'est possible, contre la mise en concurrence des salariés et des peuples au profit des actionnaires. Il faut un autre monde de solidarité et de coopération. Merci.